Voici les titres du journal.
Les Montésanes et les Montésans auront leur foire du 31. Les autorités communales de Montais et Montais Tourisme ont obtenu l'aval du canton du Valais. Le Super Noël aura aussi bien lieu. L'association romande Patouche, qui combat les violences envers les enfants, lance une nouvelle campagne. Son but ultime, que les cours qu'elle dispense depuis 20 ans se généralisent dans toutes les écoles. Et les pare-brises de nos voitures vont se parer de violet. C'est la couleur choisie pour la vignette autoroutière 2022. En basket, les temps sont toujours aussi difficiles pour le BBC Montais Chablais qui court toujours après une première victoire alors que la fin du premier tour approche. En revanche, chez les dames, la situation du BBC Trois Torrents est bien plus favorable.
Pour la météo, un temps souvent très nuageux pour cet après-midi. Pour demain, du stratus en plaine et un temps ensoleillé en montagne. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Isabelle Bertolini. Bonjour Isabelle.
Bonjour Axel et bonjour à tous. Yannick Butet a été condamné pour les actes commis à l'encontre de l'aude Camille Chanton, accusé d'attouchement à caractère sexuel et de propos grossiers. L'ancien président de Colombey-Muret écope d'une peine pécuniaire de 45 jours amende avec sursis durant 4 ans, ainsi qu'à une amende. Le sursis d'une précédente affaire a été révoqué et les frais de l'enquête pénale ainsi que les frais d'avocat de l'aude Camille Chanton ont été mis à charge de Yannick Butet. La plainte pénale déposée par Yannick Butet à l'encontre de Madame Chanton pour diffamation a été classée sans suite.
La fin de l'année sera festive à Montais.
Et pour cause, la foire du 31 pourra accueillir à nouveau ses nombreux visiteurs. Ils pourront profiter de l'événement sans la contrainte de présenter un certificat Covid. Les organisateurs et les autorités de la ville ont présenté un plan de protection qui a convaincu le canton du Valais. La fête se fera sous certaines conditions et avec quelques aménagements toutefois, entre autres l'ouverture sur tous les côtés des stands exposants et l'absence d'animation musicale afin d'éviter les attroupements. L'État a aussi donné son aval pour le Super Noël qui se tiendra du 17 au 31 décembre. Écoutez à ce propos le conseiller municipal en charge du tourisme, Guy Christina.
On a dû être un petit peu plus précis justement parce que on a choisi d'organiser des animations. Et puis là, il y aura des zones qui seront accessibles uniquement avec le pass sanitaire. Une scène sera installée, donc là, il y aura des contrôles. La règle, c'est les installations ouvertes ou fermées. Donc le marché de Noël va pouvoir avoir lieu. Mais là, on doit quand même toujours rappeler à tout le monde que c'est la situation aujourd'hui. On est toujours un petit peu obligé de rester sur la réserve. Et puis je pense que c'est bien de le communiquer pour que ça ne soit pas éventuellement une surprise. Je ne veux pas faire rabat-joie maintenant, mais voilà, on sent qu'on vit un moment particulier.
Et de rappeler évidemment que le maintien des manifestations n'est pas garanti et dépend de l'évolution sanitaire. Des mesures pourraient être encore prises si la situation sanitaire se dégrade. Un sujet réalisé par Guillaume Abbé.
Patouche milite pour une mise en place généralisée de ses cours.
Voilà 20 ans que l'association romande de prévention de la violence envers les enfants apprend aux jeunes à reconnaître et à gérer les situations problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés. Avec sa nouvelle campagne, Patouche souhaite susciter une prise de conscience à large échelle. Plus de précisions avec vous, Alexandra Claude.
On recense en Suisse chaque année 1400 cas de violence au sens du code pénal, mais selon les estimations, seuls 10% des cas sont déclarés, ce qui porterait à 14 000 le nombre de mineurs concernés dans la réalité. Violence physique, verbale, psychologique, harcèlement, séquestration, viol, toutes ces formes d'abus sont abordées dans les cours de Patouche, déclinés en plusieurs volets. Les explications de Bernard Jacquet, président de l'association.
Il y a deux modules, le module théorique où on développe des connaissances comme l'affirmation de soi, la définition des limites, savoir ce que c'est que la violence, comprendre le système et avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Et puis le deuxième module, c'est vraiment un cours pratique où on essaye de mettre en application ce qu'on a appris. On voit au début du cours, malgré qu'ils ont les compétences théoriques, c'est compliqué. Et puis après, en voyant les camarades faire et en faisant soi-même, en inscrivant dans son cerveau les bons comportements, on voit que très rapidement, on arrive à gérer des situations de violence relativement complexes.
Si l'efficacité des cours Patouche n'est plus approuvée pour l'association, ses membres ont tout de même souhaité aller plus loin afin de gagner en reconnaissance. On retrouve Bernard Jacquet.
On voulait vraiment avoir la certitude que nos cours atteignent leurs objectifs. C'est pour ça qu'on a mandaté l'Université de Lausanne, qui a mis en place un système d'évaluation sur des cours qu'on a donnés dans les cantons de Vaud et du Valais. Et puis le résultat de cette étude est que nos cours atteignent les objectifs. Par exemple, on a mis des enfants en situation de violence. Certains avaient suivi le cours Patouche, d'autres ne l'avaient pas suivi. Et puis tous les enfants qui avaient suivi le cours Patouche, sauf un, ont réussi à gérer cette situation de violence, et les enfants qui n'avaient pas suivi le cours Patouche ont tous échoué, sauf un. Donc l'efficacité des cours Patouche est vraiment prouvée, et il est important, quand on a de la prévention, qu'elle soit évaluée. Et là, elle est scientifiquement évaluée, et on est certain maintenant que nos cours atteignent bien les buts qu'on s'est fixés.
Et pour appuyer encore son action de prévention, Patouche lance aujourd'hui un sondage sur son site internet qui se présente en réalité plutôt comme une pétition. Par leur signature, les internautes affirment qu'ils souhaitent que tous les enfants de Suisse romande aient accès aux cours de prévention. Le but est de déclencher une réaction et une décision politique, comme l'explique Bernard Jacquet.
Pour nous, il faudrait en faire encore plus. Par exemple, les portes des écoles valaisannes nous sont largement ouvertes, mais on va dans les écoles chaque fois à la demande des directeurs, ça vient de la base. Et nous, on pense que la problématique est tellement grande, tellement importante, qu'avec tous les gens qui vont signer ce sondage, on arrive à convaincre les autorités que c'est d'une importance capitale et qu'on peut changer la société avec des cours et avec la gestion de la violence.
Notez que des discussions sont déjà en cours dans la plupart des cantons de Suisse romande. Reste à les concrétiser.
Et merci Alexandra. Ajoutons que la nouvelle campagne de prévention de l'association Patouche démarre cette semaine. Nouvelles affiches et nouvelles vidéos seront visibles dans la rue, à la télévision et sur le web. Des apprentis valaisans deviennent ambassadeurs de carrière. Sur demande, ils se rendront dans des classes du cycle d'orientation pour témoigner de leur expérience professionnelle. La particularité de cette démarche est que ces jeunes en formation ont choisi un métier atypique pour leur sexe. Ce projet pilote vise à encourager les élèves à se projeter dans des domaines professionnels non conventionnels à l'heure où le choix d'un métier demeure largement lié au sexe.
Il n'y aura qu'un seul candidat vert pour le Conseil d'État vaudois en mars 2022.
Un choix de raison, même si le parti enchaîne les succès depuis plusieurs élections. Réunis samedi en assemblée à Lausanne, les délégués ont préféré jouer la prudence. Avec trois ministres socialistes sortants et un seul siège vert au gouvernement, pas question de vexer les alliés naturels en envoyant deux personnes au front. La grande majorité des 172 délégués a donc choisi Vassili Venizelos avec 151 voix en sa faveur. Le député verdonnois a été préféré au municipal d'Épalinges, Maurice Michler. Samedi, l'urbaniste de 44 ans affichait sa satisfaction face à ce résultat. Il était au micro de Joël Espy.
Bien, je suis extrêmement reconnaissant du soutien des Verts et des Verts ce soir. J'ai conscience d'avoir une grande responsabilité maintenant. Je vais me battre pour maintenir cette majorité à gauche avec le ticket socialiste, avec les trois femmes socialistes. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ce n'est pas une option. Nous avons une obligation de résultat. Il est important de maintenir cette majorité de gauche pour porter les valeurs de l'écologie politique au niveau du gouvernement.
On reste toujours dans cette approche malgré les résultats des élections précédentes. Pas d'arrogance, pas de candidat et surtout ne pas vexer les socialistes.
Non, c'est un choix stratégique, à mon avis sage, qui a été pris par l'Assemblée Générale. Il est essentiel de maintenir cette majorité de gauche. Nous avons réussi à le faire ces dernières années. Nous avons réussi à convaincre une majorité des Vaudois qu'il était important d'avoir une majorité de gauche au niveau du Conseil d'État. Maintenant, l'objectif sera effectivement de renforcer notre représentation au niveau du Grand Conseil et de faire progresser l'ensemble des forces de gauche au niveau du Grand Conseil.
Il y a une discussion intéressante quand même en début de journée. Ce contrebalancement entre le Grand Conseil et le Conseil d'État, vous allez avoir besoin du Grand Conseil aussi si vous êtes élu à l'exécutif.
Évidemment, je vais avoir besoin du Grand Conseil, je vais avoir besoin des militants et des militantes, je vais avoir besoin de la base, et finalement de toutes les forces vives de ce canton, que ce soit les milieux économiques, que ce soit les entreprises, que ce soit les fermes. Nous aurons besoin de toutes les forces vives de cette société pour faire avancer la cause écologique sur l'ensemble du territoire vaudois.
Donc il faudra plus d'élus verts aussi au Grand Conseil, ça vous y croyez ?
Oui, j'en suis convaincu.
Bah, simplement, vos thématiques, les thématiques que vous allez défendre là pendant cette campagne ?
Alors j'ai trois priorités, évidemment l'urgence climatique et la lutte contre le déclin de la biodiversité, c'est clairement la thématique centrale qui doit être mise au cœur des activités de l'État et des activités du canton. Deuxième thématique, il est essentiel de renforcer, de maintenir des services publics efficaces. Nous avons vu avec cette crise sanitaire qu'il était essentiel d'avoir un service public fort. Et enfin, pour que ce projet de société ait du sens et pour qu'il puisse profiter à toutes et tous, mener une politique proactive en matière d'égalité et lutter contre toutes les discriminations.
Soutenu également samedi par les délégués vaudois du parti, le ticket rose-vert comprendra donc les trois socialistes Nouria Gorité, Rebecca Ruiz, Cécile Amarel, ainsi que Vassilis Venizelos. Pro-Infirmis reconduit son action en faveur de l'inclusion à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Des bons hommes de Saint-Nicolas différents seront vendus dans plus de 150 boulangeries de Suisse romande le 3 décembre prochain sous le slogan « Tous la même pâte ». La campagne a pour but de sensibiliser la population à une société où la diversité est reconnue comme une richesse. Un club pas tout à fait comme les autres a donné un atelier au cycle d'orientation à Vouvry ce week-end. Son nom, le Coding Club des filles. Une vingtaine d'enfants âgés de 11 à 15 ans a pris part à cet atelier de coding. Ces ateliers se veulent ludiques et conviviaux. Ils affichaient complet samedi. Guillaume Abbé est allé et a suivi une partie de la matinée de samedi.
Des ateliers sont donnés partout en Suisse romande pour initier les jeunes filles à la programmation informatique, appelée aussi le coding. Une vingtaine de participantes, âgées entre 11 et 15 ans, ont pris part à Vouvry à une de ces matinées, sous la houlette de trois animateurs venus de l'EPFL. Et dès les premières minutes, tout est fait pour que les jeunes programmatrices soient à l'aise.
Nous, on les accueille, on les amène du coup à la salle d'informatique.
Jessie Staudelman, animatrice de l'atelier, 20 ans, étudiante en deuxième année à l'EPFL en matériaux.
Et ensuite, on leur donne un petit t-shirt du Coding Club. Quand elles font pour la première fois un atelier du Coding Club, des filles, bah elles font partie en fait du Coding Club. Du coup, bah c'est pour ça qu'on leur donne un petit t-shirt.
Chaque atelier a un thème particulier.
Luc Agmur, 31 ans, physicien et médiateur scientifique à l'EPFL, animateur de l'atelier.
Donc, par exemple, là aujourd'hui, on s'oriente pas mal sur le graphisme. Donc, elles apprennent un petit peu les bases du dessin 3D, du dessin assisté par ordinateur. Donc, elles sont en train de programmer des formes en 3D.
En route pour la programmation informatique ou le coding. Mais en fait, Jessie Staudelman, qu'est-ce que c'est ?
C'est une manière de communiquer avec l'ordinateur. Et puis, pour pouvoir communiquer, on utilise du coup le langage, un langage spécifique. Et après, on écrit à l'ordinateur et puis il est capable de retraduire ça. Et puis, l'ordinateur effectue les tâches qu'on a envie. Il fait que d'obéir aux ordres. Après, si on est très doué en informatique, peut-être qu'on arrive à créer avec l'intelligence artificielle où ils arrivent à créer des nouvelles idées. Mais je veux dire, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est simplement un exécutant.
Pourquoi avoir mis sur pied un coding club uniquement réservé aux filles ? J'ai donc posé la question à l'animateur Luc Agmur.
En fait, la problématique, c'est que dans tous les métiers de l'informatique, que ce soit un CFC d'informaticien ou des études universitaires en informatique, on constate qu'il y a un déséquilibre entre le nombre d'hommes et de femmes. À l'EPFL, on le constate dans les hautes écoles, on le constate dans les CFC. Et l'impulsion vient aussi du Bureau fédéral de l'égalité entre les hommes et les femmes à Berne, qui cherchait des projets pour encourager ce genre d'activité. Donc ces ateliers ont pour but de permettre à des femmes de découvrir ce que c'est que la programmation pour peut-être en faire un futur métier.
Ces ateliers seront à nouveau organisés à Vouvry, mais patience, ce ne sera pas avant le premier semestre 2022. Un cours similaire est toutefois prévu le samedi 27 novembre à Martigny. Les inscriptions sont ouvertes sur codingclub.ch, un sujet programmé donc par Guillaume Abbé. L'UDC fait de la sécurité de l'approvisionnement énergétique une priorité absolue. L'UDC demande à la chef du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication de reconnaître l'échec de la stratégie énergétique 2050. Le parti dit vouloir miser sur les énergies hydroélectriques et nucléaires face au risque de pénurie d'électricité imminente. Et deux événements ce lundi à Berne qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre d'ailleurs, après avoir dû être annulés l'an passé. Retour du marché aux oignons, le fameux Zibel Marit, et à l'invitation de l'Office fédéral de la culture, des directeurs cantonaux de l'instruction publique et des bibliothèques se tient aussi la deuxième conférence suisse de promotion de la lecture. La première avait eu lieu en 2018. On y présente toutes les bonnes idées, tous les concepts et projets pour promouvoir la lecture précoce auprès de jeunes enfants. Pourquoi est-ce nécessaire ? L'école ne fait-elle pas son travail ? Écoutez la chargée de la promotion de la lecture à l'Office fédéral de la culture, Stéphanie Schneider.
La lecture, c'est pas seulement la compétence de lire, c'est vraiment le plaisir de lire. Avec quoi je repars après avoir lu un livre, après avoir lu un texte ? Ça fait vraiment partie de la culture. Et puis, c'est aussi une compétence qui nous permet d'entrer dans d'autres domaines, je dirais, plus culturels. Ça permet de participer, finalement. Sans lecture, on ne peut pas participer au reste de la vie en société, finalement. Comme il y a plusieurs types de textes, il y a aussi plusieurs niveaux de lecture. Il y a les textes très informationnels, où il va falloir traiter l'information. C'est un petit peu les compétences, je dirais, de base, où on doit déchiffrer. Et puis après, il y a des textes où on nous raconte une histoire, où on nous raconte plus juste quelques informations, où on va peut-être devoir encore deviner quelles étaient les intentions, quelles étaient les émotions, ou encore comprendre l'ironie. Et ça, ça fait appel à d'autres compétences.
Un sujet rédigé par Serge Jubin.
Le pare-brise de nos voitures va se parer de violet.
C'est la couleur choisie pour la vignette autoroutière 2022. Le petit autocollant sera en vente à partir du 1er décembre et doit être collé avant le 31 janvier 2022. Son prix reste inchangé, 40 francs. Il faudra attendre 2023 pour se passer, si on le souhaite, de la vignette autocollante. La version électronique facultative donc devrait être introduite en cours d'année. Et plus d'un étudiant sur deux dit manquer de motivation en Suisse. 1 sur 10 envisage d'abandonner ses études. Ces données ont été publiées aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. L'enquête a été réalisée durant le semestre de printemps 2020. Plus de 25 000 étudiants ont répondu à un questionnaire en ligne.
Tout le globe n'en est pas au même stade de la pandémie de Covid-19.
Preuve en est, les mesures sont parfois opposées. À titre d'exemple, la Nouvelle-Zélande annonce aujourd'hui qu'elle mettra fin, début décembre, au confinement de 3 mois et demi dans la plus grande ville du pays. L'archipel annonce aussi l'adoption d'une nouvelle stratégie de lutte basée sur un code couleur et faisant la différence entre population vaccinée ou non. En Autriche, par contre, le gouvernement impose le confinement depuis minuit aujourd'hui. La mesure est valable jusqu'au 13 décembre. Les Allemands seront vaccinés, guéris ou morts d'ici la fin de l'hiver, un avertissement lancé aujourd'hui par le ministre de la Santé du pays en réaction à la flambée actuelle des infections au Covid-19. L'Allemagne, tout particulièrement les régions du sud et de l'est, est frappée de plein fouet par une nouvelle vague de contamination que les experts et les responsables politiques attribuent notamment à un taux de vaccination parmi les plus faibles de l'Europe occidentale. Actuellement, 68% des Allemands ont relevé leur manche. Un SUV a percuté hier une foule rassemblée pour une parade de Noël dans le Wisconsin, dans le nord des États-Unis. Au moins 5 personnes sont décédées et 40 ont été blessées. La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l'arrêter, mais le conducteur a pris la fuite. On ne connaît pas ses motivations. Une enquête est actuellement en cours. Et les violences conjugales ont grimpé de 10% en France en 2020. Le chiffre tiré du bilan des services de police et de gendarmerie a été annoncé aujourd'hui par le service statistique du ministère de l'Intérieur. Le nombre de victimes, près de 160 000, environ 87% de ces victimes sont des femmes, soit 140 000. Un troisième procès lié au génocide rwandais s'ouvre aujourd'hui à Paris. Sur le banc des accusés, un ex-chauffeur franco-rwandais, citoyen ordinaire, accusé d'avoir sciemment aidé des tueurs lors du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. L'homme de 60 ans qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité est réfugié en France, dont il a obtenu la nationalité en 2010. En football maintenant, le FC Sion et Balthazar Costa jouent la carte de la fidélité. Arrivé en Valais il y a 3 ans, le milieu de terrain brésilien a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le club. Un club dont il a porté les couleurs à 59 reprises. Durant cette période, le jeune joueur de 21 ans en a profité pour inscrire 4 buts et distribuer 6 passes décisives. En basket, le BBC Monté-Chablais ne sait toujours pas gagner cette saison en SB League. 8 matchs en championnat, 8 défaites. Le bilan est sans appel pour les jaunes et verts. À une journée de la fin du premier tour, les Bavalaisans courent inlassablement derrière une victoire. Une victoire qui leur a échappé samedi devant leur public. Opposée aux Star Wings de Bâle, la formation montésane n'a pas tenu sur la longueur. Au contact de leur adversaire durant 25 minutes, les Chablaisiens se sont finalement inclinés sur le score de 81 à 72. À l'heure de la trêve internationale, les pensionnaires de la salle du Reposieu ont désormais 2 semaines devant eux pour préparer leur prochaine échéance. Une échéance qui s'annonce capitale à Lugano. Les impressions de l'entraîneur du BBC Monté-Chablais, Patrick Pembélé.
C'est toujours le plus important après le prochain. Maintenant, la difficulté, elle est qu'on a eu ces 3 derniers matchs, je dirais, contre des adversaires à notre portée. On les a perdus. Et on va à Lugano, c'est un adversaire à notre portée. Si on le perd, on se met en danger pour le deuxième tour en termes de confiance, parce qu'on aura de nouveau Genève. Ensuite, Suisse centrale, mais après Fribourg et Massagno et Neuchâtel. Et c'est, je vous dirais que c'est chaque match, c'est le plus important.
Justement, ce déplacement à Lugano, comment vous allez aborder ces 15 jours pour le préparer ?
Mon assistant va devoir travailler, puisque moi je parle avec l'équipe nationale suisse. On va essentiellement travailler sur notre défense et notre lassitude au rebond. On doit corriger ça.
Des propos recueillis par Julien Massy. Ce match de la 9e journée de SB League entre les Lugano Tigers et le BBC Montéchablais est prévu le samedi 4 décembre en terre tessinoise.
Et tout va bien du côté du BBC Trois-Torrents.
La formation Chorg enchaîne en SB League Women samedi. Elle a fessé le BC Alte Cantillarao 82-42 devant son public de la salle du Reposieux. Ce succès solide confirme la bonne forme des Chablaisiennes en ce début de saison avec 3 victoires pour une défaite. Les Valaisannes sont 3e au classement. Au-delà de l'aspect comptable, la bonne affaire du week-end aura surtout permis aux joueuses de José Manuel Dantas de gagner en confiance, comme le souligne Katia Clément, coach assistante du BBC Trois-Torrents.
Ça fait du bien pour la confiance. Après, on doit aussi dire qu'en face, il manque des filles, que ça explique aussi cet écart qui est grand, parce qu'en face, ça joue au basket quand même, mais avec moins de talent. Mais non, on a fait un match solide, ça met en confiance, surtout pour le match qui nous attend mercredi.
Ce match entre le BBC Trois-Torrents et le BC Alte Cantillarao a toutefois dû être interrompu plusieurs minutes après la blessure d'une joueuse argovienne. Prise dans son élan après un sprint, elle a terminé sa course dans les gradins situés derrière le panier adverse, se blessant ouvertement le tibia. Des images impressionnantes pour l'ensemble des joueuses qui ne sont pas forcément restées indifférentes à la situation, comme l'explique Nadia Constantin, capitaine du BBC Trois-Torrents.
Oui, je pense que ça fait toujours quelque chose de voir une adversaire. Certes, c'est une adversaire, mais c'est avant tout une joueuse qui se blesse. On lui souhaite tout le meilleur. Après, on se doit d'être concentré parce que c'est vrai que des fois, dans ces moments-là, c'est difficile à revenir, mais je pense qu'on a réussi à revenir dans notre jeu.
Tout dernier mot, Nadia Constantin. Trois-Torrents, on le voit encore aujourd'hui, joue les premiers rôles cette saison en SB League Women. C'est un statut que vous revendiquiez en début de saison ou vous êtes simplement surprise d'en être là aujourd'hui?
Je pense pas qu'on peut dire qu'on est surpris. Je pense qu'après, peut-être pas beaucoup de monde nous attendait à ce niveau-là. Moi, j'ai confiance en mon équipe, je sais ce qu'on vaut et je sais qu'on peut aller loin, mais on doit surtout travailler.
Propos recueillis par Ludovic Turin, il s'agit de la 3e victoire de la saison pour le BBC Trois-Torrents qui pointe au 3e rang du classement. Mercredi, les Chorgues accueillent Nyon Basket à la salle du Reposieux. Et on termine avec du hockey sur glace. Lausanne risque d'être privée des services de son capitaine durant plusieurs matchs. Une procédure a été ouverte par la commission de discipline de la Ligue à l'encontre de Marc Barberio. Marc Barberio. Cette enquête fait suite à une charge avec la crosse à la hauteur de la nuque. Un incident qui s'est produit hier lors du match perdu 1-0 par le LHC à Zurich. Tant que le verdict n'aura pas été rendu, le défenseur québécois pourra continuer à jouer. De son côté, Fribourg-Gotteron ne comptera plus Chris Di Domenico dans ses rangs à la fin de la saison. L'attaquant canadien s'est engagé pour 2 ans avec le CP Berne depuis son arrivée en Suisse en 2014. Il a disputé 279 matchs de National League pour un total de 254 points.
Merci Isabelle Bertolini qui perd tous ses moyens quand elle parle de hockey. Visiblement, les hockeyeurs, ça vous plaît.
J'ai pris un coup de crosse.
Bonne journée.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. Radio Chablais. La météo.
Le temps sera toujours très nuageux pour cet après-midi, mais il restera généralement sec. Il va faire jusqu'à 8 degrés en pleine, 3 à 1000 mètres et 0 à 2000 mètres. Demain, du stratus souvent tenace, en particulier sur la Riviera, avec une limite supérieure située entre 1500 et 1800 mètres d'altitude. Sinon, au-dessus, le temps sera bien ensoleillé. Il va faire de 1 à 8 degrés en pleine, de 0 à 4 à 1000 mètres et de moins 4 à 0 à 2000 mètres.